Tahar Ben Jelloun, vous publiez aux éditions Gallimard votre nouveau roman intitulé « Au pays ». Ce nouveau roman que vous publiez maintenant s'inscrit d'emblée dans une bibliothèque idéale, celle où l'on place les livres qui transforment notre vision du monde. Lorsque j'ai refermé le livre, je n'ai pu m'empêcher de songer au premier livre qui vous avait fait connaître, « La plus haute des solitudes ». C'était un essai sur l'immigration dans les années 60, l'immigration marocaine en France à la fin des années 60. Aujourd'hui, vous investiguez à nouveau cette thématique à travers le personnage central de votre roman, Mohamed, qui reçoit le 5 septembre 1962 son passeport pour la France. Alors, en quoi le roman ajoute-t-il à la démarche de l'essai? En quoi apporte-t-il quelque chose de plus sur cette thématique-là?
Moi, je pense que c'est une boucle qui va être bouclée, là. Parce que j'ai commencé, en arrivant en France, à observer, à regarder un peu comment cette immigration, surtout maghrébine, était perçue, vivait. Alors j'étais tellement choqué et scandalisé par les conditions de vie de ces personnes que je m'étais beaucoup attaché à cette cause et à l'époque. J'avais commencé d'ailleurs, avant de faire ma thèse, j'avais commencé à faire un article dans Le Monde sur cette solitude horrible qu'aucun être humain ne pourrait supporter sans se révolter, quoi. C'était dans les années 70 où l'immigration n'était même pas, n'existait même pas dans les médias. Et je me souviens, ça c'était grâce à Vincent Ponté, que Dieu ait son âme, qui était un très grand journaliste, un monsieur qui était plein d'humanité, m'a dit: écoutez, c'est très bien d'avoir fait ça parce que c'est vrai, nous ne savons rien sur cette communauté. Donc, alors j'ai écrit La plus haute des solitudes. Ça a eu l'effet un peu de choc à l'époque. Ensuite, le thème m'a poursuivi. Donc, j'ai fait après un petit texte, une pièce de théâtre qui devient un roman, La réclusion solitaire. Et bon, j'ai fait l'hospitalité française sur l'histoire du racisme en France. Après, j'ai écrit un autre roman qui s'appelle Partir, sur cette jeunesse qui veut quitter le pays par n'importe quel moyen pour travailler en Europe. Et puis, j'ai observé la fin de cette génération, c'est-à-dire les hommes que j'avais rencontrés en 71 qui arrivent à la retraite, et que pour eux la retraite c'est une catastrophe parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur temps.
Le personnage de Mohamed, qui est le personnage central de votre livre, arrive à la retraite et il est perdu. C'est une sorte de roman du désarroi que vous avez écrit sur ce personnage qui n'a pas d'identité non plus. Son nom, on ne le connaîtra pas.
Oui, on l'appelle Mohamed l'émigré, mais ça peut être n'importe qui. Il y a peut-être une référence au prophète Mohamed qui, lui, a inauguré l'immigration, parce que Mohamed, le prophète de l'islam, a dû émigrer de la Mecque à Médine, et c'est en 622 commence l'ère musulmane, c'est-à-dire que le mot hijra, qui veut dire immigration, a donné le nom au calendrier musulman. Donc on dirait que les musulmans, les arabes, les musulmans, sont nés sous le signe de l'immigration, du déplacement, de la fuite vers l'ailleurs. Donc lui, Mohamed, il aurait pu s'appeler Ibrahim ou Ahmed, mais j'ai tenu à ce qu'il s'appelle Mohamed à cause de cette référence, je dirais, qui n'est pas dite dans le livre. Mais il a un rapport à l'islam très important, mais en même temps très apaisé. Donc, c'est un personnage, bien sûr, qui tombe dans un désarroi total, parce que n'oublions pas, c'est quelqu'un d'analphabète, comme le prophète ça ne fait pas lire. Il est, il a été très correct toute sa vie, c'est-à-dire qu'il a travaillé avec énormément de justesse et de sérieux. Et il s'est confondu un petit peu avec son rôle comme le personnage de Sartre, dans Le garçon de café, qui a pris un rituel et qui le suivait jour après jour. Il n'a pas vu ses enfants grandir, ni évoluer, ni changer surtout. Et puis après, un jour, on lui apprend qu'il a tout le temps devant lui. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec ce temps? Alors au début, il commence à repartir à l'usine. Parce qu'il faut se déshabituer, il faut s'arracher à l'habitude, au rituel. Et c'est un personnage, je dirais à ce moment-là, ce n'est plus un immigré, ça devient n'importe qui, ça peut être vous, moi, n'importe quel autre personnage. Et c'est pour cela que, à la limite, ce n'est pas un livre sur l'immigration, c'est un livre sur la solitude d'un homme qui n'a pas vu le temps passer et qui a tout faux. C'est-à-dire que le pauvre, il vivait encore dans une autre époque, il n'était pas préparé à vivre cette époque-là. C'est un homme, un brave homme, quoi. Et les braves hommes, malheureusement, les braves hommes n'ont pas toujours raison dans ce monde de brutes et de violence.
Mohamed est aussi un personnage, vous en parliez, sa perception de l'islam est une perception très simple, très humble. C'est son père qui lui a transmis en lui disant notamment « l'islam c'est simple, tu es responsable ».
Encore une fois, je reviens au prophète Mahomet, qui lui a donné de l'islam une vision extrêmement paisible et juste. C'est-à-dire que, d'ailleurs, la plupart des gens de cette époque-là, de l'époque de Mohammed, mon personnage, c'est-à-dire ces immigrés, célibataires, analphabètes, qui venaient ou alors qui se mariaient après, ont de l'islam une perception quasi naturelle. Ce ne sont pas des gens qui ont étudié dans des universités. Le doute pour eux, ça n'existe pas. La contestation non plus. C'est des gens qui ont reçu une éducation minimale avec les quelques valeurs de l'islam qui sont parfois exposées de manière littérale. Voilà, l'islam c'est ça. Il faut croire en Dieu, un seul Dieu, il faut respecter son prophète, il faut faire du bien, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire du mal. Et puis tu montres ça dans les prières, chaque fois par jour, si tu peux, et puis tu vas à la Mecque, si tu peux, etc. Donc il a de l'islam une image très répandue dans le monde, parce que l'image de violence, du terrorisme, c'est une image complètement détournée de l'islam et qui est très 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 minoritaire. Il y a une poignée de fous dans le monde qui utilisent la religion et du coup c'est tout l'islam qui est taché et qui est sali par leur comportement.
Votre roman se déroule comme, non pas comme un flashback, mais un peu comme des volutes de souvenirs ou de songeries dans lesquelles le personnage arrivé à la retraite ou tout au bord de la retraite refait une sorte de, pas de bilan, mais il va se promener mentalement dans sa vie. Et ça vous permet d'écrire dans un style, dans une forme très particulière où on change de narrateur, le jeu devient l'un ou l'autre des personnages suivant ceux qu'il évoque. D'où vous est venue cette forme-là? Est-ce que c'était pour vraiment entrer dans la songerie de ce vieil homme simple?
Je pense que ça correspond davantage à disons, une perception la plus réaliste possible. C'est-à-dire, quand on parle, par exemple, on ne s'arrête pas, on ne dit pas deux points, ouvrir les guillemets. Donc les gens parlent, il y a quelqu'un d'autre qui parle. Et j'essaie de recréer cette vivacité de la parole. Et puis, j'ai enlevé tous les artifices de l'écriture pour essayer de redonner peut-être une partie orale aux interventions, aux différentes interventions de personnages qui sont autour de lui, les gens qu'il voit, les gens avec qui il parle, les gens qu'il imagine, etc. Donc c'est plus une... je ne sais pas, c'est un peu. Un peu comme chez Beckett. Enfin, je ne compare pas à ce que je fais à Beckett, mais. Parce qu'il y a eu deux ou trois journalistes qui ont évoqué Beckett à propos du livre, mais parce qu'il y a une absurdité très naïve et très quotidienne qui passe comme ça, et qui passe sans faire de bruit. On n'est pas en train de casser la baraque, mais on est en train de dire des choses qui passent. Et quand on lit, je ne sais pas, si on prend le texte le plus connu de Beckett, Antoine Godot, il n'y a aucune phrase compliquée. C'est des phrases de la vie quotidienne. Ah oui, je ne peux pas laisser parce que, ah oui, on attend. Donc, il y a une retranscription du langage et de la vie quotidienne telle qu'elle est répandue dans la vie.
Il y a autour de cette exploration par Mohamed de ses souvenirs toute une série de personnages qui font aussi la force de votre roman. J'aimerais qu'on en évoque deux. Tout d'abord Nabil, ce personnage qui est comme un miroir de Mohamed. C'est un enfant
trisomique.
Et il dit, Mohamed, c'est comme un ange, c'est un don de Dieu. En quoi est-ce que ce personnage vous est venu? Comment vous est-il arrivé dans l'écriture?
Bon, d'abord, pour être plus précis, j'ai moi-même un enfant trisomique qui a maintenant 17 ans. Et moi, alors ça c'est une partie que j'ai voulu introduire. Je l'ai introduit d'une manière exprès pour que le lecteur petit à petit s'habitue à ce que des personnes handicapées, différentes, fassent partie du paysage humain. Et cet enfant est vraiment un ange dans la mesure où il est, en général, je parle des enfants trisomiques qui ne sont pas non plus des cas lourds, parce que les cas lourds, c'est très difficile à vivre. Le mien est un cas très léger et par conséquent, il est extraordinaire, il est champion de natation, il fait plein de choses, il fait du théâtre, etc. Mais en même temps, c'est quelqu'un que j'ai découvert parmi, j'ai quatre enfants, il est le plus près de la bonté, une bonté naturelle chez lui. Il est incapable de méchanceté, incapable de... Vraiment, il est incapable de faire le mal. Et puis c'est quelqu'un qui a une sensibilité, et c'est le seul... il n'est pas l'enfant direct de Mohamed dans le roman, c'est son neveu, c'est le seul qui va l'accompagner, qui va le comprendre, qui va l'assister. Et ça, c'est une vérité, parce que ce sont des enfants qui restent le plus près possible de l'émotion et du sentiment, alors que ses propres enfants sont dans la vie, font leur travail, font leur vie, ils sont très loin. Alors le personnage de Nabil, il est un peu... disons quand même la présence du bien dans ce livre.
Vous avez employé le mot pour cet enfant trisomique et pour les enfants trisomiques en général, c'est extraordinaire, qui sort de l'ordinaire.
Il sort de l'ordinaire, mais réintègre l'ordinaire avec élégance et avec beaucoup, beaucoup de sensibilité. En tout cas, quand ce sont des handicaps légers, parce que Je suis dans beaucoup d'associations, je vois un peu parfois, il y a des choses extraordinairement dures et difficiles à vivre pour les parents, etc. Mais le fait est que mon fils et Nabil sont des êtres, bon, ils ont une petite différence, mais qui s'intègrent tout à fait dans la vie.
Les autres personnages qui entourent et dont j'aimerais... sur lesquels j'aimerais vous interroger, sont les enfants. Parce qu'effectivement, il y a cette deuxième génération, comme on l'appelle, qui n'a plus aucun lien avec le père, Mohamed, parce que lui, d'une certaine manière, n'a pas voulu s'intégrer, n'a pas voulu... Il dit lui-même qu'il est resté inatteignable. C'est un choix qu'il avait fait.
Ce n'est pas un choix tout à fait normal pour cette génération. Vous imaginez un paysan... du Haut Atlas, du Maroc, très loin de la France, qui n'a jamais quitté son bled et qui, du jour au lendemain, se retrouve dans un train et traverse le Maroc, puis l'Espagne arrive et la France arrive dans la banlieue parisienne. Alors vous imaginez un peu tout ça. Et alors lui, ce n'est pas son pays, il est réellement étranger à tout ça. Et la France, pour lui, c'est l'usine. C'est le lieu de travail, ce n'est pas le lieu où il va faire sa vie dans le sens où il va s'intégrer, voter, prendre un passeport français. C'est pas... Et cette génération ne s'intéressait absolument pas à ça. Moi, je me souviens, quand je parlais avec certains d'entre eux, c'était en 80-81, lorsque Mitterrand avait promis le vote des immigrés, il dit « Ah, vous allez voter, il n'y a rien à foutre de voter. » C'est notre pays, c'est pas notre pays. Le pays, c'est le Maroc ou l'Algérie. Et ils avaient raison parce que ils auraient fait des Français inadéquats parce que c'est pas leur truc. Ils sont venus pour travailler et repartir. Alors là, il repart, mais il y a les enfants qu'il a fait dans ce pays et qui sont des jeunes Français, des jeunes Européens. Qui ont peut-être une sensibilité pour le pays d'origine, la culture d'origine de leur père, mais sans plus, ils sont comme ça. Enfin, ils parlent du Maroc comme un décor de tourisme, mais ils sont dans la France, ils sont français. Et lui n'a pas compris ça. Lui n'a pas compris, il va aller dans le bled, et il va construire cette maison énorme, cette bâtisse un peu folle, et pensant qu'ils vont tous venir s'installer chez lui.
Sa tragédie, en quelque sorte, c'est de repartir vers son pays, mais de repartir seul. Et c'était ce qu'il avait voulu, ce qu'il craignait le plus, ce qu'il redoutait le plus, ce qui est le plus en contradiction avec ses valeurs.
C'est absolument son drame qui devient une tragédie vers la fin. C'est-à-dire que... Il n'a pas vu il n'a pas vu du tout comment les choses évoluent. Il n'a pas perçu, il a manqué de perspicacité, j'en sais rien. Il n'a pas regardé à droite et à gauche, il est resté comme ça, à marcher comme un train qui ne s'arrête pas, qui travaille. Pendant 40 ans, c'est comme ça.
Le dernier chapitre que nous ne dévoilerons pas ici est d'un onirisme qui est flamboyant, qui est extraordinairement parlant. Est-ce que c'est le chapitre que vous avez écrit en tant que poète, en plus qu'en tant que romancier? La poésie nourrit-elle votre travail de romancier?
Bien sûr que la poésie est toujours là, mais quand j'écris, je ne vais pas dire « tiens, maintenant je vais faire de la poésie ». Ça vient avec l'écriture. Il y a des situations qu'on ne peut pas aborder autrement que par une écriture où la poésie se révèle elle-même. On n'a pas besoin de dire voilà, maintenant je vais faire de la poésie. Ça vient naturellement.
Tahar Ben Jelloun, je vous remercie et pour ce livre et pour nous donner à ressentir autant qu'à connaître. Merci pour avoir ajouté ce volume à la bibliothèque idéale, ce rempart contre l'intégrisme et l'intolérance. Merci pour avoir transformé le regard que nous porterons dorénavant sur Mohamed, sur ses enfants, sur Nabil, sur son pays, sur sa culture et sur ses valeurs. Merci Tahar Ben Jelloun.
Merci à vous, merci beaucoup.